RFI, 6h44, en temps universel. Et la suite des RFI Matin, c'est un nouveau journal dans un quart d'heure. Reportage en Inde avec Léa Ojal. Quelle réaction des habitants de New Delhi face à l'escalade avec le Pakistan depuis mardi et l'attentat qui a fait 26 morts dans le Cachemire indien? On les entendra à New Delhi au micro de notre correspondante et on en reparle dans quelques instants avec Yelena Tomic. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Le tour de la presse africaine avec vous et à la une un timide espoir de paix en République démocratique du Congo.
Kinshasa et l'AFC M23 veulent fumer le calumet de la paix, annonce Africa News, alors que Media Afrique News se demande si l'on va vers une trêve et souligne que la déclaration conjointe publiée hier est une première depuis le début des négociations à Doha. Dans cette déclaration, ajoute Media Afrique News, les deux parties annoncent avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve. Mais aux yeux de Jeune Afrique, il s'agit là d'une étape symbolique qui montre que le plus dur reste à faire. Si ce communiqué marque le premier engagement commun pris entre Kinshasa et le M23, souligne le magazine panafricain, il n'a pour l'instant pris la forme que d'une simple déclaration d'intention. Un diplomate confie que le processus prendra du temps. Pour l'instant, dit-il, il fallait un engagement sur la forme, quitte à remettre le vrai débat à plus tard.
Au Bénin, à présent, la presse met l'accent sur les réactions internationales après l'attaque terroriste qui a fait 54 morts le 17 avril.
La CEDEAO condamne un acte barbare et lâche, titre La Nation, qui cite le communiqué de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, selon laquelle cet incident tragique souligne de manière criante l'impérieuse nécessité d'une coopération renforcée entre tous les États membres, en particulier ceux qui partagent des frontières communes et sont directement confrontés à ce fléau. Allusion sans aucun doute au Niger et au Burkina Faso, désormais membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. De son côté, la Nouvelle Tribune s'intéresse à la réaction de la France, solidaire du Bénin. L'ambassade de France à Cotonou, précise le journal, condamne fermement ces actes violents et réaffirme son soutien total au peuple béninois. La Nouvelle Tribune revient également sur les propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumbedji, selon lequel le président Patrice Talon a multiplié les échanges avec le haut commandement militaire pour analyser la situation sur le terrain, revoir les stratégies en cours et faire le point sur les équipements militaires attendus ou encore nécessaires.
Une question à présent, y a-t-il des ressortissants sénégalais engagés dans les forces russes pour combattre l'Ukraine?
Une question posée indirectement par l'agence de presse africaine qui a pu visionner une vidéo montrant un Sénégalais présenté comme ayant combattu aux côtés des forces russes et ayant été capturé par l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine. Sur cette vidéo, le jeune homme livre, nous dit-on, un témoignage confus sur son parcours depuis la Russie et les circonstances de son engagement. Il affirme avoir étudié 2 ans en Russie avant d'être conduit, moyennant le versement d'argent à un intermédiaire vers le front. Le jeune homme évoque aussi une promesse d'émigration vers l'Europe en passant par l'Ukraine qui n'aurait été qu'une simple étape. Il ajoute que désormais il ne souhaite plus rejoindre l'Europe mais simplement rentrer au Sénégal. La Russie, c'est mauvais, dit-il, elle m'a fait très mal. L'agence de presse africaine qui publie donc ce témoignage souligne toutefois que pour le moment, rien ne permet de vérifier si ces propos ont été tenus librement.
Enfin, Afri.com nous fait découvrir le documentaire Liti Liti.
Documentaire réalisé par Mamadou Kouma Gueye et qui, nous dit Afrique.com, explore la mémoire vivante d'un quartier populaire de la banlieue de Dakar, menacé par les bulldozers du progrès. Le réalisateur a interrogé sa propre mère, Sokhna Diaye, qui depuis 40 ans vit dans une maison qu'elle a bâtie pièce après pièce grâce à la solidarité de la tontine. Mais cette maison doit disparaître, le train express régional doit y passer. Afrique.com rend hommage au réalisateur Mamadou Kouma Gueye et parle d'un premier film bouleversant, à la fois cri d'amour pour sa mère et acte politique contre un développement qui oublie les humains.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et Anna Hune, la Russie prête à conclure un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les mots de Sergueï Lavrov cette nuit, le chef de la diplomatie russe, dans un entretien à la chaîne américaine CBS. Après les frappes de missiles russes contre Kiev qui ont fait au moins 12 morts dans la nuit de mercredi à jeudi, Donald Trump a quant à lui exhorté Vladimir Poutine à cesser de bombarder le pays. Vladimir, arrête, a-t-il écrit en majuscule sur son réseau social. Il s'en était plutôt pris à Volodymyr Zelensky ces derniers jours, comme à son habitude, qu'il accuse d'être un obstacle à la paix. Le président ukrainien a rejeté à nouveau toute concession sur la Crimée annexée hier. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, participera lui demain à Oman à une troisième session de pourparlers avec l'Iran sur son programme nucléaire. L'administration Trump s'est prononcée en faveur d'une solution diplomatique avec l'Iran, mais sans écarter l'option militaire, afin que l'Iran n'obtienne jamais l'arme atomique. Dans la région, Israël menace de lancer une offensive plus vaste à Gaza si les otages ne sont pas libérés du territoire palestinien. Hier, au moins 55 personnes, dont des enfants, ont été tuées par les bombardements israéliens. Selon des sources palestiniennes, la veille, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, appelait le Hamas à libérer les otages pour ne pas donner de prétexte à Israël. Dans ce contexte, l'Organisation de libération de la Palestine se dote d'un poste inédit de vice-président, manière de préparer l'après Abbas. C'est une analyse de Nicolas Falaise que vous lisez sur RFI.fr. Et puis en France, l'effroi et le temps de l'enquête au lendemain de l'attaque au couteau qui a tué une jeune fille et blessé trois élèves dans un lycée privé de Nantes. L'assaillant, un adolescent, est à l'hôpital psychiatrique, décrit comme dépressif et inspiré par l'idéologie néo-nazie. Le procureur de Nantes donnera une conférence de presse ce soir.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Et on revient sur l'autre grand titre de l'actualité ce matin, l'escalade entre l'Inde et le Pakistan après la fusillade meurtrière de mardi qui a fait 26 morts dans le Cachemire indien. Suspension de visa, expulsion de diplomates et de ressortissants, fermeture de frontières. La tension ne cesse de monter alors que New Delhi accuse son voisin de terrorisme transfrontalier et de soutenir des islamistes. Thèse réfutée catégoriquement par le Pakistan. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour Julien.
L'attentat de mardi dans une région très touristique était l'un des plus meurtriers depuis 20 ans. Et entre les deux puissances nucléaires rivales depuis la partition de 1947, le ton s'est encore durci dans la journée d'hier.
Et oui, Julien, le gouvernement de New Delhi a ouvert le bal hier en dévoilant sa première série de représailles. La première concerne la suspension immédiate du traité sur le partage des eaux de l'Indus, un accord historique qui date de 1960 et qui n'a jamais été remis en question jusqu'ici, malgré trois guerres. Autre mesure, la fermeture du poste frontière d'Atari-Wagha dans le Punjab. C'est le seul point de passage terrestre entre les deux pays. L'Inde a ensuite ordonné à effet immédiat l'expulsion des diplomates pakistanais. Le personnel est réduit de 55 à 30 membres. Les attachés de défense et autres responsables militaires ont été déclarés persona non grata et sommés de quitter le pays sous une semaine. La diplomatie indienne a également révoqué, vous l'avez dit, tous les visas aux ressortissants pakistanais, une mesure effective à compter du 27 avril. Autrement dit, tous les ressortissants pakistanais actuellement en Inde doivent quitter le pays d'ici dimanche.
Quelle a été la réaction du Pakistan, Yelena ?
Et bien sûr, l'Islamabad a riposté à l'issue d'une rare réunion de son comité de la sécurité nationale. Le Pakistan a ordonné le départ des diplomates indiens, la suspension des visas pour les ressortissants indiens, ainsi que la fermeture de sa frontière et de son espace aérien aux compagnies indienne. Islamabad a également averti son voisin que tout acte de détournement de l'eau de l'Indus serait perçu comme un acte de guerre.
Alors Yelena, l'attentat qui a ravivé les tensions entre les frères ennemis aurait été revendiqué par un groupe peu connu, surnommé Résistance du Cachemire. Qui sont-ils ?
Alors c'est un groupe de militants islamistes qui aurait été créé en 2019, lorsque l'Inde a décidé, souvenez-vous, de révoquer l'autonomie partielle du Cachemire indien à majorité musulmane en abrogeant l'article 370. Le contrôle total de la région par New Delhi a exacerbé bien sûr les tensions. Ce groupe est considéré par le gouvernement indien comme une émanation du groupe djihadiste basé au Pakistan, le Lashkar-e-Taiba, désigné comme une organisation terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis. Alors certains experts estiment qu'il a été créé pour donner une apparence indigène et sécularisée à l'insurrection cachemirie, permettant au Pakistan de nier son implication directe.
Compte tenu de l'escalade, on peut dire qu'il y a aujourd'hui un risque de guerre ?
Alors le risque existe, sachant que le Cachemire a déjà provoqué 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan. Les déclarations belliqueuses de part et d'autre contribuent évidemment à accroître les tensions communautaires et religieuses. Certains experts s'attendent à ce que l'Inde riposte militairement d'ici quelques jours ou quelques semaines. D'autres pensent que New Delhi prendra le temps d'étudier l'éventail des représailles possibles du Pakistan. En tout cas, la communauté internationale privilégie la désescalade et la solidarité avec l'Inde tout en évitant d'alimenter le conflit bilatéral.
Et on continue bien sûr de suivre cette escalade entre l'Inde et le Pakistan sur RFI et RFI.fr alors que ce matin, l'ONU appelle les deux pays à la retenue maximale. Merci Elena Tomic. Et bientôt 7h en temps universel sur la radio du monde. Avant le prochain journal, votre sourire du vendredi, la parlotte de Charlotte avec vous, Charlotte Ntamak. On parle souvent du trafic d'influence, mais vous nous parlez aujourd'hui du trafic sur la toile d'influenceurs ou d'influenceuses.
Oui, on connaissait jusqu'ici le trafic d'influence, mais depuis l'avènement des réseaux sociaux et des influents d'Internet, on assiste désormais à des trafics d'influenceuses et même d'influenceurs. Dans le trafic d'influence, l'autorité abuse de son pouvoir. Je te dis de me suivre au poste, tu me demandes le mandat d'arrêt. Ah bon, hein? Nous sommes dans un pays de droit, hein? Je vais donc te montrer que le pays s'y nous appartient. Dans le trafic d'influenceurs, on abuse de la liberté de parler de tout et de rien à temps et à contre-temps pour influencer les influençables. Mais lovers, ceux qui vous disent que le travail paye ne vous disent pas quel travail paye le plus. C'est le love qui paye bien, mes lovers. Pourquoi souffrir sous le soleil et la pluie alors que la nature nous a doté de tout ce qu'il faut pour être riche? Aujourd'hui alors, je vais vous montrer le sac à main de 25 millions qu'on vient de m'offrir grâce au vrai travail, mes lovers. Dans le trafic d'influence, on compte sur ces milliers de relations ou les millions perçus pour exercer son influence. Et dans le trafic d'influenceuses, on compte sur les milliers de vues et les millions d'abonnés. Plus le nombre de suiveurs est dense, plus l'influence est intense sur ces influencées, victimes consentantes du trafic d'influenceuses. Mais Loulou, je vous prends à témoin. Vous-même, vous avez suivi comment elle m'a traité de ce que je ne peux pas prononcer ici, sinon Facebook va me bloquer. En attendant mon direct de ce soir, je vous invite massivement à signaler son compte. Le trafic est permanent entre influenceuses qui n'arrêtent pas de s'influencer. Cache-toi bien derrière ton clavier pour m'insulter. Le jour où je te croise, si tu es sage, change seulement de route. Tu peux me faire quoi? Je te préviens que j'ai tes vidéos. Oui, madame, j'ai tes nudes. Ose seulement répondre à mon commentaire si je balance tout ici. C'est tendu sur le virtuel, mais dans le réel, on se rend bien vite compte qu'il ne s'agit que d'un simple trafic d'influenceuses. Tu as dit que si je mets les pieds ici, tu vas m'enfermer, non? Me voici alors, tu es où? Tu attendais seulement que je vienne au pays pour fuir te cacher à Paris. Il en existe, c'est vrai, qui ont une influence positive sur les internautes. Mais le trafic d'influenceuses et influenceurs, tout comme le trafic d'influence et tout autre trafic, a un côté illicite. Pardon, laisse-nous ça. Elle vend quelle perruque. C'est avec son institut de beauté qu'elle a ramassé tout l'argent qu'elle exhibe sur Internet là. Nous tous, on sait ce qu'elle passe souvent traficoter à Dubaï. Comme quoi, le trafic d'influenceuses cache très souvent une influence de trafic. À vendredi.
À vendredi, Charlotte. Et merci. Sur RFI, il est bientôt 9h à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous nous écoutez sur votre radio, sur notre site RFI.fr, sur l'appli Pure Radio et sur YouTube où vous êtes plus de 2500 actuellement. Vous nous parlez également. On salue Chancel qui nous salue depuis Brazzaville et Daouda qui nous dit bonjour depuis Bamako. Le journal dans 2 minutes. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Nono Fuji.
Tokolia kaka nenge baso servir. Olimo bangisanga, wanani namboko. Tu n'es pas Dieu le Père, le Fils couvre et dit Yeli.
Les frères Timal.
RFI Musique.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
C'est l'album du retour aux sources pour Laura Prince. Le Togo de ses ancêtres, son héritage historique et musical, son titre, Adjoko. La chanteuse de jazz s'y entoure d'un pianiste ghanéen et d'un percussionniste du Bénin. Elle sera avec nous en live avec le virtuose de la guitare, Abdoulaye Kouyaté.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
100 jours après le retour au pouvoir de Donald Trump, où va l'économie des États-Unis ? Entre risque d'inflation et menace de récession, les Américains et leurs entreprises sont-ils dans le doute ? Émission 100% USA avec nos envoyés spéciaux, témoignages et analyses.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Géopolitique.
Dans la lignée de son célèbre slogan « Make America Great Again », Donald Trump bouscule les fondements traditionnels de la diplomatie américaine. Sa présidence, marquée par des choix audacieux et souvent controversés, soulève de nombreux défis à l'échelle mondiale. Sa politique étrangère divise, interroge et redessine les équilibres mondiaux. Regard de spécialiste avec Marie-France Chatin sur les 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump dans Géopolitique, ce samedi à 17h10 TU.
RFI.